c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.
Principalement aujourd'hui, nous travaillons sur la véloroute, nous travaillons sur la chaîne des parcs, nous avons à cœur de préserver les 10 sites classés UNESCO qui sont en grand danger. Et donc, j'ai demandé à la ministre Bachelot un programme prévisionnel d'investissement pour que nous puissions rénover un site à la fois qui soit inscrit donc par le gouvernement dans son budget, notamment le budget de la culture, pour pouvoir aller à la rénovation de ces sites, parce que les communes et les communautés d'agglomération seules ne pourront pas payer.
La mission Bassin Minier est la structure qui a porté le dossier d'inscription du Bassin Minier des Hauts-de-France au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui en est aujourd'hui le gestionnaire. Lors de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2021, des outils de développement ont été présentés, entre autres à Livre et de nombreux projets. Commençons par les explications de Cathy Apourceau-Poli, présidente de la mission Bassin Minier et sénatrice du Pas-de-Calais.
Alors la mission Bassin Minier, évidemment, nous avons sorti ce livre parce que nous devions, en images, en témoignages, dire ce que la mission Bassin Minier avait fait et aux projets auxquels elle avait contribué ces 20 dernières années. Pour ce 20e anniversaire, nous avons donc fait le choix de faire un livre. Ce livre retrace le passé, mais il parle également de présent et d'avenir, parce que je suis de celles qui pensent que l'on ne peut pas parler d'avenir sans s'inspirer du passé, et notamment de ce que ces hommes et ces femmes ont construit et nous ont laissé sur ce bassin minier. Nous fêterons le 20e anniversaire. Nous allons aussi fêter, vous le disiez fort justement, le 10e anniversaire du patrimoine mondial de l'UNESCO en partenariat avec le Louvre-Lens, puisque le Louvre-Lens aura aussi 10 ans, comme le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc nous allons faire un travail et nous avons construit ensemble des initiatives communes, des initiatives évidemment culturelles, pour parler aux gens, parce qu'il est important de parler aux gens, aux élus, aux maires notamment, de ce bassin minier et de son histoire, mais aussi toujours dans le souci de s'inscrire dans l'avenir.
Et vous parliez de grands dangers, ce sont pour les anciens sites miniers, hein, c'est ça? Comme là, ici, aujourd'hui, on a nos 99 bis à Wani. Grand danger, ça veut dire grande restauration à venir?
Oui, bien sûr, grande restauration. Il y a par exemple le Camus à Annet. Il y a plusieurs sites qui sont en danger parce que ce sont des éléments qui ont des dizaines d'années et qui méritent une restauration parce que ce sont les seuls qu'il nous reste. Donc les communes, ce sont généralement des petites communes, elles n'ont pas les moyens ni les EPCI. Donc l'État doit prendre, et notamment le ministère de la Culture, doit prendre ses responsabilités pour que nous puissions préserver ces sites qui sont uniques en France.
C'est aussi développer le tourisme encore plus dans le bassin minier pour que les gens extérieurs au bassin minier viennent visiter.
Bien sûr, et notamment, moi j'en ai l'expérience quand je reçois des gens ici. Dans ce bassin minier, ils découvrent un territoire nouveau, ils découvrent vraiment avec beaucoup d'admiration ce territoire qui a des paysages remarquables. Vous passez de Théry à Cité Minière, vous passez de cité minière à site remarquable et les gens découvrent vraiment ce territoire et ils nous disent que nous avons un beau territoire. Donc forcément, pour faire venir, il nous faut développer de la mobilité, il nous faut développer des lieux d'hébergement et de restauration. Et même si ce n'est pas le corps de métier de la mission Bassin Minier, nous donnons notre avis sur ces perspectives-là. Et puis, il y a un gros sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup aujourd'hui dans ce bassin minier, c'est la question de la santé. Vous avez vu, on a fait un reportage tout à l'heure où on y meurt plus tôt que d'autres populations en France et où il y a des déserts médicaux très importants. Donc il faut vraiment que nous puissions ici travailler à la question de la santé et pour attirer de jeunes médecins, pour attirer des professionnels de la santé, eh bien il faut être accueillant et leur offrir des services.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
L'artiste de la région Hauts-de-France, Chamberlin, à l'instant avec le titre Chanel. On continue à parler des 20 ans de la mission Bassin Minier avec sa directrice, Catherine Bertram, qui explique ce qu'est la mission Bassin Minier.
On a été créé en 2000 dans le cadre « Les mots sont symboliques » de l'après-mine. hein, une décision interministérielle, l'État, le Conseil régional, les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais et l'Association des communes minières donc, ont convergé pour fonder la mission bassin minier. Et donc, on a les structures intercommunales qui sont venues aussi rejoindre le tour de table. Et donc, on a toujours évolué pour répondre aux attentes du territoire. Et le patrimoine minier donc, a vu ses lettres de noblesse accordées au plus haut niveau, une reconnaissance donc, au niveau international avec donc, le patrimoine mondial, cette aventure donc, maintenant que nous gérons depuis 2012. Ça fait 10 ans l'année prochaine. Donc, c'est un paysage culturel évolutif qui dit bien les choses, vivant, un territoire de plus de 1,1 million d'habitants, donc qui ne cesse d'évoluer puisque les gens vivent, travaillent, se divertissent, consomment sur ce territoire. Et donc, c'est vraiment à la fois de protéger l'intégrité de cet héritage, ce patrimoine, mais aussi de le faire évoluer pour que les maisons, les gens d'ici et d'ailleurs aient envie d'y habiter, de circuler sur les anciennes assises de voies ferrées, hein, qui sont appelées les cavaliers miniers, et d'aller visiter les grands sites miniers, hein, il y en a 5, et bien sûr en lien avec le Louvre-Lens. Donc nous travaillons dans ce sens-là.
Et donc qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce livre ?
Donc dans ce livre, en fait, de façon dynamique, nous avons recueilli des témoignages, des interviews d'acteurs clés, mais aussi retracé, en faisant un peu d'introspection, des éléments en fait, de trajectoire du bassin minier. Alors ça va par exemple des friches, puisque nous avons été accablés de friches avec la déprise de l'activité minière, heureusement gérée avec l'établissement public foncier dans les années 90 déjà, mais avant avec les collectivités et les communes, et l'État et l'Europe. Mais en tout cas, on avait des friches, nous sommes allés vers l'idée de mettre en réseau quand ils étaient requalifiés, ces espaces naturels et néo-naturels, donc c'est la trame verte et bleue, où il y avait en effet l'idée d'avoir des pôles structurants, comme bien sûr la base des Argales à Riolet-Pécancourt, par exemple, mais aussi base à Maury, mais aussi évidemment tous les espaces naturels du parc naturel régional Scarpesco. Mais c'était aussi donc d'aller des friches vers cette mise en valeur dans les trames vertes et bleues, au service des habitants, des visiteurs. Sur la partie Pas-de-Calais, donc ça s'appelle un grand projet qui s'appelle la chaîne des parcs, qui est aussi pour mettre en lien donc les espaces naturels et aussi un événementiel qui permette, avec une signalétique, d'accroître l'offre de modes doux, mais aussi de visites pour les gens extérieurs. Et le département du Nord vient nous charger en fait une mission d'étendre cette réflexion de la chaîne des parcs sur les grands espaces naturels du Nord. Par exemple, pour ne pas le citer, bien sûr, les espaces donc, du pays de Condé, qui à la fois sont miniés par les espaces naturels ou forestiers, mais aussi par les éléments, les témoignages ou les vestiges qui peuplent ces paysages culturels évolutifs. Voilà.
Catherine Bertram, directrice de la mission Bassin Minier, nous parle aussi des logements dans ce territoire, notamment les cités minières et les corons.
Mais bien sûr, vous avez toute la réflexion sur l'habitat, hein, puisque nous avons eu une période de mise aux normes des rénovations des voiries et des réseaux divers des cités minières. Hein, il y en a 563 actuellement. Comment aujourd'hui c'est faire la cité en fait, du 21e siècle, où les aspects de confort, d'habitabilité, de mise en valeur de l'architecture, du soin apporté aux espaces publics, les services publics peuvent faire des cités minières, des écrins accueillants pour les habitants d'ici, mais aussi pour les gens qui veulent habiter dans le bassin minier aujourd'hui. Ça, c'est aussi un deuxième fil. C'est de travailler avec Le Ward et les grands sites miniers Wallers-Sarambert, donc le centre historique minier à Le Ward, le 9-9 bis de Oigny, le 11-19, et la cité des électriciens dans la partie Béthune-Bruay à Toilis-Romane. Travailler, bien sûr, encore avec le Louvre-Lens.
Et donc, autour du livre, il y a un film aussi, hein, c'est ça, qui est sorti ?
Tout à fait. Alors, le film bilan là, qui vous montre ces éléments clés de trajectoire hein, de ces 20 ans d'un territoire qui sortait de la reconversion lourde vers de l'après-mine vers aujourd'hui, on s'achemine vers ce qu'on appelle la transition hein, à tous les niveaux, que ce soit le point urbain, économique, culturel, etc. Cette mise en mouvement du territoire. Ce livre et ce film sont sur notre site internet, sur la version Calameo, sur notre site internet rénové qui s'appelle missionbassinminier.org, facilement trouvable. Et le film, en fait, c'est pour la séquence un peu émotion. À la fois revenir aux fondements avec nos images d'archives, notre ancien président, notre présidente actuelle, tous les élus ou les acteurs qui ont accompagné finalement ce que je disais dans le livre. Le livre et le film ont été en fait couplés et faits ensemble. C'est tout simplement des émotions différentes ou une façon de s'approprier finalement des éléments de lecture dynamique du territoire. C'était vraiment l'ambition commun aux deux.
Et donc là, ça fait 20 ans de la mission Bassin Minier. Quel grand projet il y a encore à faire, là, à développer dans le bassin minier? Quels sont les axes là, de travail?
Donc nous n'oublions pas que la mission Bassin Minier n'a pas tout hein, en héritage dans ses compétences. Hein. Évidemment, d'autres acteurs seraient mieux à même de parler de tout ce qui est troisième révolution industrielle, toutes les nouvelles industries, les clusters, etc. Mais en tout cas, nous, on pense que l'itinérance, le sport de nature a plein de vertus, c'est-à-dire d'avoir une véloroute qui parcourt tout le bassin minier, donc avec des chemins de halage, des anciennes assises de voies ferrées, les cavaliers, qui fassent traverser les paysages. C'est aussi bon pour la santé, hein, pour remettre aussi le sport, la découverte des paysages, du patrimoine pour des habitants de proximité, mais aussi pour des visiteurs. C'est développer aussi une offre de services, des événementiels aussi qui viennent ponctuer deux jours de découverte donc de ce bassin minier. C'est de l'événementiel aussi, sportif ou culturel. 2022, on va l'espérer, un grand levier par rapport à ça. Évidemment, c'est aussi l'engagement pour le renouveau du bassin minier qui est notre grand projet pour, on disait, continuer l'approche intégrée des logements accueillants dans des cités minières accueillantes, dans des villes connectées. C'est aussi pour que le réseau des grands sites miniers, les 56 sites miniers, travaillent de mieux en mieux ensemble. Ce sont nos portes du bassin minier patrimoine mondial et des éléments de destination touristique et culturelle. Finalement, notre mode d'action transversal, c'est d'essayer d'impulser de la qualité qui, à la fois, améliorerait l'attractivité, aussi le rayonnement, parce que le rayonnement européen international du territoire est important pour changer l'image, changer, toujours un peu casser les clichés que nous avons en héritage, sur lequel il faut continuer de travailler, à garder notre identité, alimenter des nouveaux regards, des nouveaux projets, attirer les gens et mettre aussi les gens en mouvement. Je crois que c'est très important aussi de créer des signaux d'espoir et des beaux repères de ce type.
Catherine Bertram, directrice de la mission Bassin Minier, nous parle aussi du tourisme à développer dans ce territoire des Hauts-de-France.
Donc en fait, on a une destination autour du Louvre-Lens qui se branche en fait sur Arras et sur le Hainaut, qui finalement intègre le bassin minier patrimoine mondial dans son périmètre d'action. Donc c'est vraiment le fait qu'on a quand même deux locomotives qui sont le patrimoine mondial et le Louvre-Lens. Hein. C'est un élément très différenciant par rapport à plein de territoires en France, voire même dans le monde, qui sont aussi des locomotives pour créer des éléments stimulants pour une offre touristique. Hein. Donc nous travaillons avec les opérateurs, nous ne sommes pas opérateurs touristiques, mais nous travaillons avec les opérateurs touristiques pour vraiment à la fois changer l'image, créer des choses décalées, créer des produits de court séjour, développer des modes d'hébergement originaux, des éléments de marketing, des produits dérivés. Enfin, tout ça, c'est du travail avec la mission autour du Louvre-Lens. Nous, c'est pour impulser tout ça qu'on travaille vraiment à développer les infrastructures de visite. On parlait de train verté bleu, de chaîne des parcs, pour que finalement la découverte des paysages et du patrimoine, une corde à l'arc de cette destination touristique, évidemment. On le sait, le tourisme, c'est important, c'est un vecteur fort de l'économie. On le sait aussi qu'on est tout à fait différent. On ne fait pas miroiter le fantasme, nous ne sommes pas les Seychelles. Par contre, c'est une réalité sur laquelle il faut travailler parce que ça fait du bien pour tout.
Il manque d'ailleurs de logements, de restauration, vous aviez dit. Hein. C'est aussi des choses qui doivent se développer encore sur le territoire.
Alors, il y a beaucoup de chambres d'hôtes qui sont ouvertes, quand même, dans les mesures qui sont faites, les enquêtes autour du Louvre-Lens. Il y a encore à pousser, à développer la restauration. Elle s'est prise aussi, mais ça, c'est en France et partout dans le monde, mais en France aussi, c'est l'impact Covid qui a beaucoup impacté aussi cette filière-là. C'est aussi trouver des gens, du personnel, hein, pour travailler dans ces sites. Oui, en fait, c'est créer, quand on parlait de créer l'offre, les services, etc., c'est une mouvance. Par contre, vraiment, c'est d'essayer d'avoir aussi des éléments de qualité différenciants, d'avoir une offre différente, qui est un peu notre carte maîtresse pour soigner en fait cet aspect original, décalé et accueillante dans ce territoire.
Oui, et puis le territoire, ce sont des habitants avec des logements convenables pour les habitants hein, du bassin minier aussi, travailler encore sur les conditions de logement aussi dans ce bassin minier.
Tout à fait. Donc là, si vous voulez, c'est travailler. Hein, quand je disais qu'on s'est occupé des dossiers GIRSOM, politique débutée dans les années 70 sur la mise aux normes des voiries et des réseaux divers, c'est tout le travail de la mission. Ça a été vraiment de travailler à l'amélioration du logement et autour du logement. Donc c'est un travail patient qui se fait tous les jours auprès des communes, des EPCI, dans le cadre donc du programme de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Une délégation qui travaille ce renouveau-là avec les acteurs de l'État et des collectivités. Donc c'est ce travail-là patient, on essaie de décliner, quand on parlait d'approche intégrée, confort, habitabilité, respect du patrimoine, intégration urbaine, lien mode doux avec les espaces de connexion, les espaces naturels. C'est ce qu'on travaille maintenant, un des ADN, des éléments de l'ADN de la mission, de travailler sur ces cités minières, finalement du 21e siècle, hein, cités du 21e siècle.
Et la région est un partenaire depuis le début de la mission bassin minier aussi, hein, la région Hauts-de-France.
Tout à fait, c'est un des membres fondateurs, au même titre que l'État, les deux départements, l'Association des communes minières et puis après les EPCI, les 7 EPCI du bassin qui sont venus conforter. La région en effet est un financeur aussi majoritaire, un grand appui de la mission bassin minier.
Oui, et puis de pouvoir relier les territoires entre eux, hein, comme on disait avec Arras, la véloroute mémoire 14-18, mais aussi même la métropole de Lille juste à côté, ça va au-delà même du bassin minier, comment relier les territoires de la région hein, finalement
Parce qu'en fait, le bassin minier n'a jamais été un isolat. Dès qu'on parle de transport, de déplacement, c'est à une échelle plus grande que ce que le bassin minier lui-même. Le bassin minier, oui, sur des grandes logiques métropolitaines, même pour les habitants, hein, les habitants qui ont choisi d'habiter parce qu'il y avait aussi une maison individuelle, un jardin, mais ils continuent à travailler en métropole lilloise. Donc finalement, c'est quand même des éléments très très branchés sur la vie des gens, travailler avec les territoires voisins. Ça a été le cas 10 ans pendant les travaux de l'aire métropolitaine de Lille. Donc ça a vraiment forgé. C'est une partie du livre d'ailleurs qui raconte tous ces travaux d'observation, d'éléments de train vert et bleu. Hein. Finalement, un habitant ou un visiteur, quand il est à vélo, qu'il soit dans un élément du bassin minier ou de se retrouver dans le parc de la Deule, c'est pour ça que le lien entre les deux, entre le parc XXL de la Deule doit être fait, et bien en fait, voilà, on aura gagné si cette offre, elle grandit, et finalement, elle se joue à cette échelle-là. Il y a plein de choses qui se jouent à cette échelle-là.
Radio Scar Sensei. We'll be right back.
À l'instant, le groupe lillois Temps Calme avec le titre Emmy. Et aujourd'hui, on parle des 20 ans de la mission Bassin Minier. Et en 2022, il y aura les 10 ans du Bassin Minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. De quoi donner une autre image au territoire qui est encore à travailler. Explication de Gilles Briand, directeur d'études de la mission Bassin Minier.
Oui, on est sur un travail de longue haleine de changement d'image de notre territoire, de travailler sur son attractivité résidentielle, puisqu'il y a clairement un enjeu d'inciter des gens à venir s'installer dans le bassin minier. On constate que finalement, beaucoup de gens travaillent dans notre territoire, mais n'y habitent pas. Et donc le but, c'est de leur montrer que finalement, il y a quand même un certain nombre d'atouts, notamment cette grande trame paysagère héritée des friches industrielles qui ont été largement requalifiées aujourd'hui. On a constaté au moment du confinement que finalement, cette contrainte du kilomètre autour de chez soi, finalement dans le bassin minier, c'en était pas tant une que ça, parce que on a ces espaces-là, on a cette masse d'espaces paysagers naturels ou néo-naturels, on va dire, avec une reconquête par la nature qui s'est faite de manière plus ou moins spontanée ou parfois un peu aidée par la main de l'homme. Et on a aujourd'hui un réseau important qui s'est constitué. On a des espaces de pratique, on a du lien entre ces espaces. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la trame verte et bleue, la chaîne des parcs, et qui permettent d'offrir finalement aux habitants de ce territoire des espaces de respiration, des espaces d'aménité, des espaces de pratique sportive en proximité des lieux d'habitation.
Oui, un paysage donc qui change avec un bassin minier qui se verdit, entre guillemets, que l'on appelait pays noir avant, on peut dire pays vert aujourd'hui, c'est ça. Et toujours être aussi vigilant en termes d'environnement dans un bassin minier qui était hautement industriel.
Oui, alors effectivement, on est sur un changement d'image assez massif. L'industrie a largement reculé. On a longtemps pensé qu'elle avait laissé beaucoup de stigmates. Alors c'est vrai, mais elle a aussi laissé un héritage. Donc c'est sur cet héritage qu'on essaye de capitaliser en matière de qualité de vie. On a parlé beaucoup là, à l'instant des grandes armatures paysagères avec les terris, mais on peut aussi parler des cités minières, hein, qui sont un vrai modèle d'urbanisme et d'architecture, dans lesquelles on a du logement individuel, des jardins, des espaces publics de qualité, des espaces aérés, des espaces dans lesquels on est à la fois chez soi, mais aussi dans une logique de voisinage qui peut fonctionner pas mal. Il y a un effort de réhabilitation, de modernisation de ces cités. Mais nous, on est convaincus que c'est un véritable modèle en matière d'architecture et d'urbanisme qui peut être une alternative à l'extension périurbaine. On a aujourd'hui des cadres réglementaires législatifs qui se mettent en place progressivement et qui visent à zéro artificialisation des sols à l'horizon 2050. Si on artificialise plus, ça veut bien dire qu'il faut qu'on occupe les espaces tels qu'ils sont déjà bâtis aujourd'hui. Les cités minières doivent constituer un véritable enjeu de renouvellement urbain à travers la réhabilitation des logements, à travers éventuellement la densification parfois. On peut construire dans les cités minières. On peut peut-être parfois démolir, mais il faut vraiment le faire avec parcimonie. Parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait toujours pas ce qu'on gagne.
Oui, et puis il y a pas mal de cités minières qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Hein. Donc elles sont protégées, entre guillemets, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il faut être prudent, c'est ça, sur les restaurations.
Tout à fait. La colonne vertébrale du paysage culturel évolutif vivant du bassin minier, ce sont effectivement les cités minières. 124 cités représentant à peu près 23-24 000 logements sont inscrits dans le périmètre. Elles ne sont pas protégées en tant que telles, comme au titre d'un monument historique par exemple, mais elles sont dans le périmètre et donc effectivement on a un engagement en tant que nation, la France, vis-à-vis du monde, de préserver ce patrimoine. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas protégé juridiquement que ça laisse toutes les libertés. En même temps, on a toujours mis en avant qu'on n'était pas dans une logique de mise sous cloche, donc il n'est pas totalement exclu à la marge de pouvoir parfois démolir un peu. Mais le réflexe de base, c'est plutôt la question de comment on réhabilite, comment on densifie, comment on améliore l'existant, plutôt que de vouloir faire table rase et de faire du neuf. D'autant que ce patrimoine a des qualités. Moi, j'invite les auditeurs à aller visiter, par exemple, la cité Bruno à Dourges, la cité Taffin à Vieux-Condé, ou les cités Lemay, Sainte-Marie à Pécancourt, où on a fait un travail poussé d'architecture, d'urbanisme, de paysage, pour se rendre compte de la qualité qui existe dans ces cités et de l'attractivité qui existe dans ces cités. Quand on fait des visites sur ce territoire avec des délégations venues d'ailleurs, ou juste des visiteurs, il y a un vrai coup de cœur pour ces cités.
Thank you. Gilles Briand, directeur d'études de la mission Bassin Minier, parle de mobilité sur le territoire et aussi des 10 ans du bassin minier au patrimoine de l'UNESCO qui sera fêté en 2022.
Alors effectivement, l'opportunité du 10e anniversaire fait qu'on a très envie de retrouver le public et d'aller à la rencontre de ce patrimoine avec un certain nombre d'initiatives qu'on va prendre dans le domaine culturel et sportif. Donc c'est à la fois de l'événement grand public de type spectacle classique, c'est aussi surtout de l'événement avec le public. Nous on aime bien mobiliser les gens de manière très directe, donc évidemment les événements sportifs ça va être courir, pédaler sur des terris, notamment le trail des pyramides noires, le raid bassin minier, la hard green qui est un nouveau format qu'on va développer plutôt dans la partie est du bassin. On va beaucoup travailler autour du corps en mouvement, avec notamment la danse, avec un projet avec le Ballet du Nord, où on a envie de faire danser tous les territoires du bassin minier, inventer une espèce de signature territoriale, une chorégraphie spécifique à notre territoire, qu'on va danser dans des cités minières, sur des terris, sur des grands sites, au pied d'un chevalement. Voilà, tout un tas d'initiatives qu'on espère pouvoir mettre en place en 2022.
Et il y a un travail à faire sur la mobilité aussi. On entendait tout à l'heure qu'il faut la voiture pour aller visiter et se déplacer dans ce bassin minier. Développer les déplacements doux, aussi des parcours, c'est ça, pour qu'on puisse se déplacer autrement dans le bassin minier.
Oui, ça c'est vraiment un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup. On a hérité d'un réseau de cavaliers qui sont les anciennes voies ferrées de chemin de fer. Et ce réseau-là, qui a été un peu morcelé, mais il existe encore largement. Et en fait, il constitue l'armature d'un réseau de modes doux important à l'échelle du bassin minier, qui permet de faire ce qu'on appelle la véloroute du bassin minier, donc qui permet d'aller de l'est à l'ouest, sur laquelle se connectent d'autres véloroutes qui vont, la véloroute de la mémoire par exemple, qui part vers Arras. On a l'Eurovélo 5, qui est une véloroute de niveau européen qui relie l'Angleterre à l'Italie et qui passe par notre territoire. Enfin, bref, on a ce maillage qui est en train de se mettre en place et qui permet justement de découvrir ce bassin minier dont la richesse fait que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre et appréhender en une seule demi-journée. Il faut vraiment passer du temps. Et aujourd'hui, on a vraiment une offre qui permet de passer 2, 3, 4 jours et justement de travailler par petites étapes. On fait 20, 30, 40 km en vélo et puis on se pose quelque part et on a une demi-journée de visite au Louvre, au Centre historique minier de Leuward ou à la Cité des électriciens par exemple.
Oui, et puis c'est aussi comment relier les sites entre eux, que les gens, par exemple, qui viennent au Louvre puissent se rendre aussi dans d'autres lieux du bassin minier pour des visites ou autres, ou même simplement pour se promener. C'est ça, c'est comment inciter le tourisme dans le bassin minier.
Oui, on est à peu près convaincus collectivement que on n'a pas un problème d'offre aujourd'hui, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce territoire. Ce qui est l'enjeu du moment, c'est plutôt ce qu'on appelle la mise en tourisme. Donc la mise en tourisme, c'est finalement la manière dont on valorise tous ces sites-là par une bonne information pour accéder à ces sites, des modalités de déplacement qui fonctionnent bien. On parle souvent du dernier kilomètre. Comment on fait pour aller de la gare à l'équipement? Comment on fait, une fois qu'on est allé au Louvre, pour avoir la bonne information sur ce qu'il y a à faire et dans quel périmètre? Il faut qu'on puisse prendre un vélo à Leuward et le ramener au Louvre et pas se poser la question de savoir comment on le ramène à Leuward, parce qu'à ce moment-là, on aura envie de prendre un autre moyen de transport. Il faut développer sans doute des modalités alternatives, des flottes de vélos électriques, des petites voitures électriques. Ça, c'est vraiment un travail qui est un travail de longue haleine qu'on doit mener et qui prendra forcément du temps. On doit se doter des outils numériques pour aider le visiteur à préparer son itinéraire, à se déplacer dans le bassin minier. Donc il existe aujourd'hui toute une série d'applications qu'on peut mobiliser et qu'on va développer sur nos territoires.
C'était un retour sur les 20 ans de la mission Bassin Minier, dont le siège se trouve sur l'ancien site minier du 99 bis de Wany, près de Lens. Pour avoir plus de renseignements, rendez-vous sur le site missionbassinminier.org. Interview et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensée.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.